J'ai acheté de la rhubarbe et des kiwis.
Du miel de romarin. Il pique un peu, il a un goût de reviens-y.
Europe 1. 11h30, la table des bons vivants.
Quel bonheur, ah, quel bonheur bien, avec, voilà. Avec un verre de cassis bien frais.
Ah, ça c'est beau ça.
Laurent Bariotte.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour partager les plaisirs de la table jusqu'à midi et demi. Des recettes, des histoires et puis des adresses. Vous êtes au bon endroit. Alors c'est le retour des grosses chaleurs, on le voit aujourd'hui. Le changement climatique s'invite à table. Quel impact a-t-il sur nos marchés et sur nos assiettes? On se pose la question avec la bande. Nous allons voyager aussi en Grèce, le pays de la feta, oui, de la moussaka, du tarama et de l'ouzo, mais pas que. On vous emmène au frais dans les tavernes. Voici mes bons vivants du jour. Grec ancien ou français moderne, quand il s'agit de vin, pas besoin de dictionnaire et lit dans les cépages. C'est Miss Glouglou du journal Le Monde. Bonjour Miss Glouglou, Ophélie Neyman.
Bonjour Laurent.
Merci d'être là. Un petit nouveau, tiens, vous le connaissez, il sillonne la France et décrypte le terroir. Il vote pour nos artisans. Nous sommes heureux de l'accueillir à la table des bons vivants. C'est le rédacteur en chef de l'excellente revue 180 degrés. Bonjour Philippe Toinard.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Merci
bonjour
d'être Philippe. Là et les auditeurs vous connaissent. Vous êtes déjà venu plusieurs fois à cette table. Vous avez votre ronde serviette,
merci,
comme on dit. Et juste avant midi, François Rollin s'installe à table. Il vient nous voir avec un livre qui est exceptionnel, qui est drôle, hilarant. Mémoire d'un gros mytho. Eh ben c'est parti. Petit rituel, hein, vous le connaissez à la maison, en voiture, soyez bien au frais, hein, pour nous écouter jusqu'à midi et demi. Quel est votre goût de la semaine? Tiens, je vous pose la question, Ophélie.
Eh bien, moi, c'est un coup de gueule parce qu'il fait chaud. Alors, on est énervé quand il fait chaud. Non, c'est surtout la finale de Top Chef, 13e saison, 13e fois que je m'énerve. Encore une fois, on nous fait un gala avec un dîner de gala avec tout plein de belles choses dans l'assiette et des verres vides.
C'est
eh ben
fou.
Oui, on nous fait croire que le vin ne compte pas, qu'on peut faire un grand dîner de gala sans accord mais vin, que le vin n'existe pas dans la gastronomie française, mais quelle tartufferie.
Mais vous savez
non, mais
pourquoi?
C'est incroyable.
C'est la loi
Evin,
c'est
oui,
qu'on n'a pas
la
le
loi
droit.
Oui, mais la loi Evin ne va pas jusque-là. On peut très bien dire qu'on a trouvé un accord avec un Saint-Nicolas de Bourgueil ou avec un Saint-Aubin sans que ça tombe sous le coup de la loi Evin.
Je vous rejoins, les chaînes de télévision, pour bien connaître le sujet, sont plus royalistes que le roi.
Absolument.
C'est-à-dire qu'elles ont peur, dès qu'il y a un verre de vin à table, on n'a pas le droit de le boire. J'explique aux auditeurs,
c'est
on
n'a
pas le droit de nous voir boire du vin à la télévision. Je ne citerai pas d'ailleurs, mais il y a certaines émissions qui le font tous les soirs.
Et tout
qui,
à fait.
Et moi, je trouve qu'ils ont, ils ont raison,
agréable,
parce qu'il
ne
faut
ouais.
pas prendre non plus les téléspectateurs pour des imbéciles. Voilà, on précise que c'est avec modération, bien entendu.
Et je veux quand même dire qu'il y a des émissions américaines comme ça, des Top Chef façon Amérique, où ils déclinent toujours l'accord mets vin. Toujours, ils donnent
mais
un vin
sûr.
Avec leur plat. Alors voilà, eux sont en train de se faire une vraie culture, et nous, plus du tout.
Elle est colère, hein,
oui,
Ophélie.
Oui, je suis en colère.
Très
démarrer,
j'aime
hein.
bien quand vous êtes en colère, ça vous va bien. Philippe Toinard, votre goût de la semaine.
Alors moi, c'est une table qui s'appelle Deux Restaurants. Alors je ne vous propose pas Deux Restaurants, c'est son nom, ça, comme le chiffre. Deux, c'est 58 rue de la Fontaine au Roi, c'est dans le 11e. Et deux, parce qu'en fait, c'est un duo qui est en cuisine et en salle, mais ils inversent les rôles selon la semaine. Donc c'est Tiffaine qui était en cuisine quand je suis passé. Elle travaille avec Romain Cazas. Et la semaine suivante, quand vous revenez, bah, ça peut être Romain qui est en cuisine et Tiffaine qui est en salle. Très joli rapport qui a été pris, 19€ pour une formule entrée plat ou plat dessert, 23€ pour entrée plat et dessert, et un très beau sourcing de produits. Il y avait de la volaille de chez Duplantier dans le Béarn, il y avait des truites des Pyrénées, il y avait du porc noir de Bigorre, et surtout, comme Tiffaine est savoyarde, elle a mis à la carte, au niveau des fromages, un persillé de Tignes, qui est tellement rare que c'était très beau de le trouver là. Du coup, j'ai lâché le dessert et je dis, je voudrais une part de persillé de Tignes.
Ah, mais je vous reconnais bien là.
C'est 58 rue de la Fontaine au Roi, c'est dans le 11e, c'est une très jolie adresse,
et
vraiment.
Oui, et Romain Cazas est venu cuisiner à la table du dimanche il n'y a pas très longtemps. Effectivement, c'est une très belle adresse. Et vous avez bien fait de préciser l'excellent rapport qualité-prix aussi, oui. Et ben voilà. Alors, mon goût de la semaine, je reviens de Saône-et-Loire où j'étais en tournage pour mes émissions d'été pour TF1. J'ai invité pas mal de chefs locaux et de producteurs locaux. Et j'ai fait venir un chef en voisin de Côte d'Or qui est Laurent Peugeot, qui a le restaurant Le Charlemagne à Pernan-Vergelès, qui est une très très belle adresse et qui nous a fait un tartare de bœuf à l'asiatique avec du miso qui est ce soja fermenté avec une belle douceur en même temps, et un enrobage avec des herbes et des fleurs exceptionnelles. Il a passé 4 ans en Asie, au Japon, et ce mariage justement du terroir bourguignon et de l'Asie, eh ben c'était une très belle assiette, un bon tartare de bœuf cette saison, ça aussi. Hein.
À boire avec un Pernan ou pas?
Ah, on boit avec beaucoup de choses, on va en reparler peut-être, parce que le tartare de bœuf, ça se boit avec du vin blanc, comme avec du vin rouge, comme même avec du vin rosé, c'est assez magique.
Allez, c'est l'heure d'aller au marché les amis. Direction le marché de la Croix de Chavaux, près de Paris, à Montreuil. Juliette Laveau de la rédaction vous a tendu le micro. Quelles sont vos recettes anti-canicule? Vos réponses au micro de Juliette.
Un petit 2 kilos.
Alors en priorité, bien sûr, des salades, des repas frais, surtout qui ne sont pas indigestes, pour essayer de bien gérer cette canicule.
Barbecue ce week-end. Poulet rôti, salade, fruits et viande grillée.
Allez, la belle dorade, 2 kilos de 15 euros, la belle dorade.
Salade, concombre, tomate, tous les légumes qui ont beaucoup d'eau. Puis boire, sans retenue. Le taboulé maison, graines de couscous, tomate, coriandre, jus de citron, un peu d'huile d'olive. S'il y a des raisins secs, c'est encore mieux. Et puis, bon appétit.
C'est bien les raisins secs dans le taboulé, bien sûr. Il y a du sucre et puis de l'énergie. Hein. Ce sont des fruits séchés qui apportent une belle énergie. Hydratez-vous, hein. C'est vrai que c'est très important. Une petite recette tient à faire pour ce week-end, Ophélie.
Alors moi, chaque fois que j'ai chaud, c'est dés de melon, dés de pastèque, un peu de concombre si on veut, de la feta, la menthe et un peu de pignon grillé.
J'allais dire exactement la même chose. Hein, ça rafraîchit, ça, Philippe Toinard.
Alors moi, je pars sur une soupe de fèves glacée, parce qu'on est en fin de saison de la fève, là.
Ah, ouais.
Encore quelques semaines. Vous préparez votre soupe de fèves avec un peu de bouillon et un peu de crème fraîche, vous mixez tout ça, vous enlevez bien la petite peau dessus parce que sinon elle reste dans le mixeur. Et vous, au dernier moment, quand elle est bien froide au frigo, vous la sortez, vous mettez un peu de miettes de fromage de chèvre dessus, un fromage de chèvre un peu affiné, et de la ciboulette ciselée, vous servez, c'est très frais quand il fait chaud comme ça.
On a plein de recettes pour vous jusqu'à midi et demi, on fait un joli dossier sur la cuisine grecque dans un instant, mais juste avant, on va s'interroger sur le réchauffement climatique et son impact dans nos assiettes. Bon samedi sur Europe 1, hydratez-vous, restez avec nous, on revient dans un instant. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Il fait chaud, très chaud. Les températures aujourd'hui sont les plus chaudes jamais enregistrées à cette période. Le climat change. Quelles sont les répercussions sur notre assiette? On se pose la question à la table des bons vivants. Ophélie, tiens, avant tout, on est en train de battre un triste record historique de température.
Oui, oui, c'est ça. Météo France a regardé toutes ses archives et non, jamais il n'y avait eu une telle vague de chaleur en France à cette période. Mi-juin, 40 degrés aujourd'hui, c'est du jamais vu.
Alors, réchauffement climatique égale canicule, mais pas que. Ce sont aussi les épisodes de gel au printemps, les pluies diluviennes, et puis cet été, la sécheresse qui s'annonce. Philippe Toinard, vous avez fait votre enquête, et dès cet été, c'est vrai qu'on va voir les effets du changement climatique dans nos assiettes, en fait.
Oui, alors il y a deux niveaux, parce qu'en fait, cette année 2022, il y a eu moins de gel qu'en 2021, qui était une année absolument terrible.
Ouais, c'est pour ça qu'on a plein de fruits, là.
Voilà. Alors, tous les fruits qui sont là actuellement, c'est-à-dire les cerises, les abricots, toutes les interprofessions disent qu'en termes de tonnage, ça va être une très belle quantité. En revanche, ça a gelé en Espagne, donc du coup, c'est les Français qui vont en profiter, tout va bien.
Pour une fois.
Pour une fois, voilà. Donc, ils ont des niveaux qui remontent à peu près aux récoltes de 2017. Donc là, on est plutôt bien pour ces premiers fruits là, de juin-juillet. En revanche, on peut être inquiet potentiellement sur tous les fruits qu'on va récolter en août. C'est-à-dire, je pense à vous, à votre région, mais la Mirabelle, on ne sait pas du tout si elle va arriver avec 15 jours d'avance, si elle va arriver avec des petits fruits, si elle va arriver avec des fruits beaucoup trop sucrés. Donc ça si la sécheresse
se développe, les arbres sont bien fournis, il n'y a pas eu de gelée.
Mais s'il fait trop chaud d'un coup et que ça dure trop longtemps, il peut y avoir un stress hydrique au niveau de l'arbre. C'est pareil pour les prunes. Et tous les producteurs que j'ai eu au téléphone me disaient, globalement, on a plutôt une bonne quantité, on est plutôt optimiste. En revanche, c'est le consommateur qui va trinquer un petit peu parce que l'essence a explosé. Toutes les matières telles que le carton, les cajots, tout ce qui vous permet d'apporter le produit vers le point de vente, ça a des conséquences. Et il y a des prix, entre 13,95 et 16,95, le prix du kilo de cerises dimanche dernier sur mon marché. Moi, je trouvais ça très très excessif. Mais c'est le prix à payer pour récupérer du produit français et on n'a pas trop le choix.
Et j'ai entendu dire aussi que le blé allait avoir des modifications suite à la sécheresse, en fait, qu'on n'aurait pas la même qualité.
Alors déjà, on n'aura pas la même qualité, on n'aura pas le même tonnage. On va faire moins en 2022 qu'en 2021. La problématique, elle est en ce moment, parce qu'il y en a déjà qui ont commencé à récolter, mais c'était de l'orge, ils avaient 15 jours d'avance, donc c'est dire si les sécheresses printanières ont été terribles. Là, le blé, en fait, il a atteint sa taille adulte, l'épi s'est développé, le grain est en train de se développer, mais s'il ne pleut pas, là, dans les prochains jours, le grain va rester comme ça, parce que l'engrais du grain, c'est l'eau. Alors, il y a certains qui peuvent arroser, tant mieux pour eux. D'autres qui sont dans des départements où il y a des impossibilités de ponctionner l'eau. Et là, du coup, vous aurez une quantité moindre. Donc, on peut imaginer que pour l'hiver, et combiné avec tous ces milliers de tonnes de blé qui sont bloqués dans le port d'Odessa en Ukraine, on peut imaginer un coût d'augmentation de la farine. Et par voie de conséquence, dans quelques mois, un coût d'augmentation de votre baguette chez le boulanger.
Oui, c'est à faire ricocher. Et du côté des vignes, Ophélie?
Pour l'instant, ça va, parce que la vigne, elle a l'habitude de supporter la chaleur. Mais effectivement, s'il y a trop de canicule, ça bloque les maturités, en fait. Avec le stress, la vigne s'arrête de fonctionner et les raisins ne mûrissent pas. Donc, paradoxalement, quand il fait très chaud, eh bien, ça ne mûrit pas. Et puis, il ne faut pas oublier non plus le dérèglement climatique avec, effectivement, le gel alors que le bourgeon est déjà sorti, parce que le réchauffement climatique, c'est ça, ce sont des plantes qui sortent de plus en plus tôt et qui sont sensibles dès qu'il y a du gel.
Alors, au-delà de cet été, que va-t-il se passer dans les années à venir? Pour y réfléchir avec nous au téléphone, Xavier Poux, agronome et chercheur, auteur avec Pierre-Marie Aubert du très bon livre « Demain, une Europe agroécologique » chez Actes Sud. Il est en ligne avec nous. Bonjour Xavier Poux.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous travaillez sur le sujet de l'agriculture durable. Quand on pense aux années à venir, Xavier, on imagine aller de la vigne en Bretagne, des orangers à Lille. Moi, je blague tout le temps en disant que je vais mettre des oliviers dans les Vosges. C'est du sérieux ou pas?
Alors, la vigne en Bretagne, c'est déjà le cas, hein. C'est même pas de la prospective. Il y en a même chez les grands Bretons, c'est dire. Donc ça, c'est déjà une réalité. Les orangers ou à Lille ou les oliviers dans les Vosges, là, je vous en laisse la responsabilité. Je pense qu'on est plus dans la science-fiction, soyons clairs. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est déjà en effet des cultures maraîchères, par exemple, qui remontent de plus en plus vers le nord, hein, du melon à Lille. C'est déjà une réalité. Donc c'est vrai que ça bouge, peut-être pas autant que ce que vous suggérez quand même dans votre question.
Qu'est-ce qui va rester au sud alors, vous pensez ?
Alors, c'est vrai que le Sud, quand on regarde les cartes de prévision d'impact du changement climatique, il y a trois Europes qui se dessinent très, très nettement. Il y a celle du Sud qui va être extrêmement impactée par tous les événements qui ont été évoqués, hein, les sécheresses, les événements pluvieux extrêmes, etc. Ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'au Nord, il y a une Europe qui s'en tire pas si mal avec le changement climatique, parce que les effets des élévations de température vont être plus favorables que ce qu'on risque de perdre sur la pluviométrie. Donc les Danois, les Hollandais, les Belges, a priori, c'est pas si mal pour eux. Et puis, il y a la zone entre les deux qui est un peu incertaine, et la France est bien à la frontière de ces trois zones. Alors, c'est vrai que le Sud, c'est vraiment la zone la plus impactée, la plus problématique. Alors, on va peut-être pas parler de désert, ça serait quand même vraiment trop excessif là aussi. Mais aller vers des productions qui sont adaptées à beaucoup plus d'aridité, c'est clairement la voie qui se dessine. Donc voilà.
Quand on vous lit, vous faites le parallèle entre la politique agricole d'après-guerre et maintenant. Ça veut dire quoi? Que si on s'y prend bien, on peut faire face au changement climatique, mais sans jeu de mots, faut pas être tiède, quoi.
Exactement. Alors, ce que je rajouterais dans l'équation, c'est pour compliquer un peu les choses, c'est qu'il faut s'adapter grosso modo au changement climatique et à un manque d'eau. Hein, l'irrigation devient vraiment centrale et tout à l'heure on évoquait ceux qui ont la chance de pouvoir irriguer leur blé. Eh bien, c'est très dangereux de fonder des systèmes de culture qui dépendent de cette irrigation, parce qu'on sait très bien qu'on va pas pouvoir le faire chaque année. Donc le mieux, c'est plutôt de développer des cultures qui n'ont pas besoin d'irrigation. C'est plutôt ça l'avenir.
Alors un mot sur cette agroécologie, justement, ouais. Parce que c'est ça que vous prenez, en fait. Pour les auditeurs, tiens, qui ne connaîtraient pas forcément le potentiel de cette agroécologie, comment vous la définiriez?
Ah ben alors, je pense qu'il y a une idée qui est très simple, c'est le sol. C'est d'avoir des sols vivants et qui sont adaptés à la fois au changement climatique et à la fois au dérèglement des écosystèmes. Parce que moi, je voudrais rajouter dans ce dont on discute le fait que l'agriculture doit s'adapter au changement climatique et au dérèglement des écosystèmes. La chose la plus claire dont on parle, c'est par exemple les pollinisateurs. Donc si on n'a plus de pollinisateurs, il y a des tas de productions qui vont disparaître, enfin qui vont baisser plutôt. Pas non plus être trop extrême, mais les fruits et légumes, ça sera très important. Donc il faut une agriculture qui soit à la fois bonne sur le climat et bonne sur la biodiversité. Et donc ça serait ça, l'agroécologie. Donc on en connaît les grands principes, hein. C'est beaucoup plus de diversification, c'est des paysages vivants, c'est une forme de résilience et de sobriété, par exemple par rapport à l'usage de l'eau, c'est beaucoup moins d'intrants de synthèse, etc. Donc c'est moins, mais beaucoup mieux, et même dans nos assiettes, ce sera très très bien.
Et plus de céréales, et ben voilà, ben si on veut approfondir le sujet, je renvoie les auditeurs à votre livre, Xavier Poux, Demain, une Europe agroécologique chez Actes Sud. Merci d'avoir été en ligne avec nous, et hydratez-vous.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci. Et pour poursuivre le dossier de l'agroécologie, je renvoie à votre magazine, Philippe Thonard, 180 degrés des recettes et des hommes, en librairie. Il y a un très très beau dossier justement sur l'importance de nos sols vivants, comme on le disait avec Xavier Poux. Ne bougez pas, on vient dans un instant. Et alors là, on vous emmène avec vue sur la mer Égée, manger des beignets de tomates à Santorin, s'attabler à une taverne ombragée. Embarquement immédiat pour la Grèce. À tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah bah voilà, eh ben oui, devant la jambe, cette circonstance, un petit sirtaki. On s'envole en Grèce ce samedi, avant de décoller. Tiens, Ophélie Neyman et Philippe Thonard, je vous demande, votre plus beau souvenir à une table grecque, Ophélie ?
Ah ben moi, c'est chez moi quand on fait l'apéro, parce que, parce que les seules olives quasiment que j'achète, ce sont les olives de Kalamata.
Ah,
elles
généreuses.
N'ont rien à voir avec les olives spongieuses qu'on peut trouver. Ce sont des grosses olives, hein, presque comme des noix. Et c'est charnu, ça a presque une consistance d'abricot, ça a un goût très doux. Ah, j'adore croquer là-dedans.
On viendra prendre l'apéro chez vous, oui, on est bien reçus. Philippe Thonard.
Moi, c'est un plat que me fait de temps en temps une amie franco-grecque qui s'appelle le briam. Voilà, vous le dites avec l'accent. Ça se mange tiède ou froid, c'est une sorte de compoté avec tous les produits du moment, donc courgettes, aubergines, tomates, poivrons, fenouil, pommes de terre, oignons. On met ça au four. Toutes les 20 minutes, on retourne ceux qui sont dessus, on les met dessous. On cuit ça pendant 1h30, ça se sert tiède ou froid, selon les températures, avec un tout petit peu de menthe au dernier moment et de la feta émiettée dessus. Et moi, je trouve ça très, très frais.
Ah, ça
très
part
bon.
Bien, ça.
Et beaucoup d'huile d'olive, bien évidemment.
Bah, évidemment.
Ben, vous venez de l'entendre. Nous vous présentons la chef Dina Nicolaou, qui est notre invitée. Que mange-t-on vraiment en Crète ou dans le Pénopolaise ? Elle va nous le raconter. Bonjour, Dina.
Bonjour.
Kalimera ?
Kalimera, hein, bien sûr, Kalimera.
Vous êtes propriétaire de Evi Evan à Paris, un véritable restaurant grec, hein, dans le 6e, dans les règles de l'art. Et vous avez une double vie, parce qu'en Grèce, vous êtes une star du petit écran. Hein. Vous animez une émission de cuisine dans laquelle vous vous baladez à la recherche des meilleurs produits grecs. C'était où, tiens, votre dernière excursion ?
Alors, c'était en Épire. Et c'est au nord de la Grèce. C'est une région qu'on connaît pas assez, les Français. Mais c'est vrai que c'est une région que moi j'adore. Il y a des montagnes. Et c'est autre chose que la Grèce que les Français connaissent, c'est les montagnes, vous voyez, c'est les lacs. Mais on a des produits extraordinaires. Là-bas, on adore les pita, les feuilletés.
Qui vraiment les feuilletés, les feuilletés. Ah oui.
Spanakopita, tiropita, creatopita.
Spanakopita, on explique, c'est très simple. Ouais. Ça, c'est des épinards, voilà, avec de la feta, des œufs et beaucoup d'herbes.
Tout
du persil, plein de plantes aromatiques, enfermées dans des feuilles de briques. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire en
soi. Pataphilo, plutôt.
Pataphilo, bah oui, parce que c'est vrai que les Grecs sont très forts en philo, hein, comme je vous dis régulièrement. Pataphilo, c'est très, très
voilà.
Bien. Oui.
Et c'est une région qui est vraiment, ça vaut les coups. Moi, j'adore. Là, ils sont plutôt, ils ont la spécialité de la viande, l'agneau en papillote, on l'appelle kleftiko, et là-bas, dans la région des Pires, vraiment, il faut y aller pour goûter que ça.
Alors, c'est pas comme nous, hein. En Grèce, il n'y a pas d'entrée, pas de plat, pas de dessert, pas de séquençage comme dans notre cuisine française, mais des mezzés, c'est quoi le principe ? Racontez-nous c'est ce beau principe des mezzés qui alors, se suivent et ne se ressemblent pas.
Les mezzés, c'est le partage. Vous voyez, on met les assiettes au milieu de la table, c'est quand il prend sa fourchette et commence à... Et on parle, on discute, on rit, c'est les joies de vivre, c'est, vous voyez, c'est pour ça que la cuisine grecque, c'est une cuisine joyeuse, c'est une cuisine qui... ça donne envie, c'est pour les gens qui ont erré de vivre. C'est ça, c'est le partage.
C'est le partage. C'est ce qu'on trouve dans votre livre, hein, Grèce, la cuisine authentique de Dina Nicolaou aux éditions Hachette. Et vous n'êtes pas venue les mains vides, Dina. On va faire un petit voyage avec vous. Hein. Alors là, vous nous avez apporté, je crois, c'est une purée de fèves. Hein,
Voilà, c'est une purée de fèves de Santorin.
C'est à Santorin, hein, comment ça ? Oui, voilà, j'étais effectivement il y a 2 ans et j'ai retrouvé ça. C'est ce qu'on appelle la fava, hein, cette purée de fèves.
Tout à fait, tout à fait.
Parce que chaque région a ses recettes bien spécifiques. Hein. Il n'y a pas une cuisine grecque comme ça, générique. Hein.
Chaque région, bien sûr, c'est comme en France, c'est comme partout. Parce que la cuisine qu'on trouve en Crète, ce n'est pas celle qu'on trouve en Macédoine ou aux Cyclades. Et sa région, alors, elle a sa cuisine et sa affaire avec ses produits, avec les microclimats. Et bien évidemment, avec les habitudes et les influences que j'ai eues. Alors, dans chaque région en Grèce, on trouve une cuisine différente. C'est pareil pour les mezzés. Parce que là devant vous, vous avez la fava des Cyclades avec les poulpes. Et juste cuisiner avec l'huile d'olive et avec les petits mezzés.
Alors, il faut qu'on goûte, on va expliquer à nos auditeurs, parce que cette purée de fèves, ce sont des fèves jaunes, hein, la fava.
Tout à fait.
Ce sont des fèves jaunes qui ont été transformées un petit peu comme un houmous. Hein,
voilà, on
hein.
les travaille, on les fait cuire avec, simplement avec les oignons. Et après, on...
Il y a une petite pointe d'épices, non ? Vous n'avez pas mis quelque chose en plus, là, des oignons ?
Là, c'est surtout pour les poulpes. Alors, les poulpes, là, on a mis vraiment... là, c'est la cannelle.
Ah, c'est ça.
Ah, voilà. C'est ça que je cherchais.
Vous voyez, c'est un peu sucré, salé. On adore ça. On adore ça en Grèce.
Et ça marche hyper bien.
Et à côté, j'ai mis du petit mez. Moi, j'adore le petit mez. C'est un sirop de, vigne. Et ça, si vous voulez bien, c'est le sucre qu'on avait à l'Antiquité grecque. C'est naturel. C'est acide sucré. Ça va avec, avec tout.
Il y a un petit côté aigre doux, oui.
Et voilà. Comment ça se fait qu'il est aussi fondant, ce poulpe ? Parce que là, vraiment, il fond dans la bouche, on a à peine besoin de mâcher, c'est incroyable.
Délicieux.
Là, c'est la façon de le préparer. Parce que quand on prépare les poulpes, on les met dans une marmite, on ne rajoute rien, et on laisse comme ça, à la basse température, pendant 30 minutes. Et c'est après que ça va rentrer les jus. Et dans ces jus, on rajoute l'huile d'olive, du vin, et du petit mezzé. Et dans une heure, on est prêt.
Et ce caviar d'aubergine qui est juste à côté, là, dans quelle région plus particulièrement on va déguster un caviar d'aubergine comme celui-ci ?
Ça, c'est Macédoine, c'est Mont Athos, et c'est à la façon des moines.
Et oui, il y a les moines du Mont Athos.
Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils rajoutent dans le caviar d'aubergine les poivrons de Florinis. Ce sont des poivrons rouges et c'est plus épicé, vous allez voir, vous allez trouver vraiment un goût épicé. Et il y a une différence. On fait partout le caviar d'aubergine en Grèce, mais chaque région, il a vraiment sa propre recette.
Cuite comment les aubergines? Au four.
Au four.
On récupère la pulpe, la chair.
Tout à fait.
L'huile d'olive, de l'ail, il y a de l'ail.
Beaucoup d'ail. On adore l'ail en Grèce.
Oui, on aime bien ça, l'ail. Mais bien sûr, mangeons de l'ail. Excellent pour les maladies cardiovasculaires. Ne bougez pas, restez avec nous. Dina, on voyage avec vous, chers auditeurs. On a plein de surprises encore et puis nous aurons un grand chef d'origine grecque avec nous au téléphone dans un instant. A tout de suite sur Europe 1 et bonne cuisine si vous êtes en train de la faire.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous revoilà, on continue de vous parler de la cuisine grecque, celle des chemins de traverse avec Dina Nicolaou du restaurant Evie et Van à Paris dans le 6e arrondissement qui a fait un très très beau livre sur la cuisine grecque. Ça s'appelle Grèce, la cuisine authentique et c'est paru chez Hachette Cuisine. Au passage, tiens, les Grecs consomment environ 28 kilos de fromage par an et par personne. Et qu'est-ce que j'apprends, Ophélie, qu'ils consomment plus que les Français, hein. On a 26 kilos en moyenne pour un Français et les Grecs en sont à 28 kilos. C'est sacré en Grèce,
mais parce
le fromage.
Que c'est, ça. C'est même mythique, Laurent. C'est mythique, regardez, ça date de le fils d'Apollon, Aristée. On lui avait appris à faire le fromage en même temps que l'huile d'olive. Et surtout, c'est Polyphème. Souvenez-vous, Polyphème, le cyclope qui avait enfermé Ulysse. Mais il n'avait pas que des mauvais côtés, en fait. Il fabriquait du fromage de brebis.
Ah, c'est vrai,
et Ulysse avait essayé de lui piquer. Et c'est pour ça, après, qu'il a dû se faire crever un œil. Enfin, qu'il y a eu toute cette histoire abominable pour du fromage de brebis. Donc oui, c'est mythique.
Dina Nicolaou, c'est vrai que c'est mythique, comme le disait Ophélie. Et puis l'inventaire des fromages est très vaste. Hein. On parle toujours de la sempiternelle feta, mais il y en a bien d'autres. Hein.
Bien sûr.
Le graviera, tiens, racontez-nous ce que c'est.
On a graviera, que c'est un fromage en pâte jaune, un peu dur. Et c'est un fromage brebis et sèvres aussi.
Ouais.
Et on mange comme la feta. Ça peut servir, ça peut accompagner nos repas, comme on fait avec feta, mais ça se cuisine très bien. On fait des gratins avec, et ça va très bien avec, et plutôt salé et sucré, parce qu'on peut même faire la gravière avec des figues, avec des fruits, avec du miel. On adore ça, gravière avec du miel de Crète, ça c'est très bien. Et à côté, on a d'autres fromages aussi, comme un thotyro, comme un nouri. Et il y en a, mais c'est vrai que faites pour nous, ça va avec tout.
Mais c'est vrai, mais c'est bien sûr.
On
c'est
mange partout.
C'est comme un jean, ça va avec
voilà,
tout. C'est
avec pas... tout.
Mais un truc, tiens, pour nos auditeurs, comment on reconnaît une bonne feta? On le rappelle, hein, c'est pas du lait de vache, c'est du lait de brebis, parce qu'il y a des petits malins qui ont voulu faire des copies. Mmh. Et évidemment,
non, brebis un peu de sèvre. Et il vaut mieux qu'on l'achète dans sa saumure. Ça conserve bien.
Oui.
Et il faut vraiment être, avoir une couleur bien blanche et pas sec au niveau de texture. Et il faut bien avoir la feta grecque AOP.
AOP, appellation d'origine protégée.
Voilà.
Exactement.
Donc on l'achète chez le fromager.
Oui.
C'est le meilleur endroit.
Il y a les fromagers, il y a des traiteurs grecs en France qui ont trouvé vraiment la feta des Grèces.
Mais vous avez raison, Philippe Renard. Le fromager, on sait qu'il va se fournir à un endroit vraiment où elle sera faite dans les règles de l'art. Bah tiens, pour une recette facile du week-end avec la feta, on a demandé au chef Philippe Chronopoulos du restaurant du Palais Royal à Paris une très très belle table. Il a décroché une deuxième étoile cette année. Il est né à Athènes. Il n'a pas renié ses origines au restaurant du Palais Royal. Loin de là. Bonjour Philippe Chronopoulos.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, une cuisine française, hein, je le disais, avec une inspiration grecque à votre carte. Et je le sais, vous réservez un joli sort à la feta.
Oui, j'adore la feta. Comme je pense tous les Grecs.
Hein. Ouais.
Qu'est-ce
c'est
que
impossible
vous en faites,
de faire sans. Hein. Donc, au restaurant, je la travaille dans deux préparations, notamment en glace avec un peu de yaourt. Ou alors dans une spécialité donc la spanakopita comme vous avez dit tout à l'heure que je j'assaisonne mes herbes avec du vin du Jura la feta donc voilà.
C'est pas un cliché, elle est partout dans la cuisine grecque, hein, dans les cuisines grecques, la feta.
Oui, oui.
Vous avez des souvenirs particuliers, vous
Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand j'allais voir mon grand-père, donc ancien restaurateur sur l'île de Corfou, qui me préparait les œufs à la tomate, accompagnés de feta et de frites fraîches. Enfin, c'est un des plus beaux souvenirs. Je pense que, enfin, c'est magique, tout simplement.
Un petit truc
donc
qu'on
des tomates bien mûres qui ont fait juste compoter rapidement dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, on casse deux œufs et puis on parsème un peu de feta avec des frites à côté, bout de pain.
C'est la saison des pastèques aussi, on peut s'amuser à griller la pastèque un petit peu sur le barbecue si on fait un barbecue.
Oui.
Et vous allez me dire ce que vous en pensez, mais on voit beaucoup ça aussi dans des restaurants en ce moment, Philippe, c'est la feta qu'on met au congélateur et qu'on va râper par-dessus, par exemple, une pastèque grillée. C'est un joli accord, ça aussi.
Oui, c'est génial, le sucré salé.
Exactement.
Moi, j'adore. Donc, ouais.
Une recette simple, tiens, pour nos auditeurs à faire avec de la feta
simple,
ce week-end, tiens.
La feta grillée, je dirais. Feta grillée, donc, ou feta rôtie au four, donc dans un plat gratin. Quelques belles tranches de feta d'environ 2 cm d'épaisseur. Quelques tomates cerises ou autres coupées en deux. Du poivron rouge coupé en lanières. Un peu d'oignon émincé, un peu d'ail émincé, un peu d'origan, pas mal d'huile d'olive, du piment, et puis on met ça au four une dizaine de minutes à 180 degrés. Enfin, c'est génial.
Eh ben, on arrive. Merci Philippe Chronopoulos d'avoir été avec nous. Une des plus
avec
belles tables
plaisir.
De la capitale. Vous venez d'avoir 2 étoiles au Palais Royal. C'est le nom de votre restaurant dans le magnifique jardin du Palais Royal avec une très belle vue. Et on vous mettra évidemment les références sur europe1.fr. Merci Philippe Chronopoulos.
Merci à vous.
Et Dina a acquiescé à tout ce que vous avez dit sur les accords. Hein, on est d'accord. Dina Nicolaou. Je voudrais qu'on rende hommage aussi, tiens, un restaurant grec parisien, restaurant Apollon. C'était Kostas Stamkopoulos, qui était un chef qu'on aimait beaucoup à la table des bons vivants, qui nous a quittés il y a pile un an. Il avait ouvert en 1989 cette belle adresse familiale. Et c'était une adresse, je me souviens, moi je l'ai découverte en arrivant à la capitale, et on y allait. Et il y en avait pour toutes les bourses. En fonction du budget des gens, il réussissait à nous faire une assiette qui était complètement à la hauteur de la belle cuisine grecque et qui était vraiment abordable. Et aujourd'hui, c'est sa famille qui a repris le flambeau. Donc voilà, c'était le restaurant de Kostas Stamkopoulos et c'est à Paris, rue Jean Nicot, dans le 7e arrondissement et ça s'appelle toujours Apollon. Vous avez connu cette adresse,
bien sûr,
Dina?
Bien sûr.
Il y a une confraternité comme ça entre les Grecs à Paris, à la capitale?
Bien sûr. On n'est pas beaucoup, alors...
On serre les coudes.
Surtout, les restaurateurs, c'est vrai, quand je connais bien, on travaille ensemble, c'est important pour nous.
Eh bien, merci d'être venue à cette table,
merci,
Dina. Je rappelle votre livre, La cuisine authentique de Dina Nicolaou, chez Hachette Cuisine, et puis votre restaurant à Paris, Evievan, dans le 6e arrondissement. On
merci.
A eu envie de voyager, on a envie de partir, là, hein, en Grèce.
Allez, on part,
avec
alors.
Les belles maisons, la chaud, hein, Philippe Ponard.
Mais moi, je veux bien quand vous voulez, c'est à quelle heure l'avion?
Il faut voir, on va regarder, il n'y a pas trop de décalage, en plus. Donc,
c'est vrai, une heure.
De l'ouzo, et on sera bien. À tout de suite, et le professeur Rollin, vous savez, cet humoriste auteur, comédien qui a toujours quelque chose à dire, et bien il sera avec nous et nous aurons un chef parisien, Pierre Négrevergne, qui sera des nôtres aussi. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invité, humoriste, comédien, auteur, metteur en scène. L'absurde et le décalage font partie de ses ingrédients préférés. C'est un artisan du rire comme on n'en fait plus. Il vient nous voir avec un livre très 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 drôle, Mémoire d'un gros mytho. François Rollin est notre invité. Bonjour François Rollin.
Bonjour Laurent.
Merci d'être là. On est ravis de vous accueillir à cette table.
Moi, je suis encore plus ravi de venir. Moi, je suis un fan de Mariotte depuis
vous êtes gentil.
des années.
Eh ben, moi, je suis un fan de Rollin et je sais que la table fait partie de vos endroits préférés. Hein.
Ah oui, vraiment, c'est vrai. Si vous m'enlevez ça, la vie n'a plus trop de saveur.
La scène quand même, hein, parce que...
La scène un peu aussi, mais s'il fallait choisir, surtout maintenant, j'ai fait un peu le tour de la scène. Donc, s'il fallait choisir, je choisirais la table. Mais je sais qu'on n'a pas l'intention de me priver ni de l'un ni de l'autre.
Vous dites que j'ai fait le tour de la Seine, vous serez ce soir à 20h30
oui.
Au Centre culturel Saint-Laurent de Nest, dans les Hautes-Pyrénées.
Hein, oui, vous savez comment il s'appelle ce centre culturel? Il s'appelle la Maison du Savoir.
Oh, wow. On va en apprendre des choses avec François Rollin. Vous avez une actualité très chargée aussi, le 26e Festival de la Correspondance de Grignan, du 5 au 9 juillet. Alors c'est génial parce que vous allez faire plusieurs spectacles. Quand le rire s'empare des médias, les ondes se gondolent avec Albert Algou. Et puis une correspondance de Pierre Dac aussi avec Pierre Palmade.
Voilà, avec mon Pierrot, on va lire du Pierre Dac. C'est très, très intéressant parce que ça a un peu vieilli Pierre Dac, d'accord, mais en même temps, les fondamentaux et les grandes lignes sont là. C'est quand même, ça reste très fort.
C'est de lui, je préfère le vin d'ici à l'au-delà.
Oui, hein, et puis dans la correspondance d'ailleurs qu'on lit, il y a plein de petites phrases. C'est de lui, je viens de chez moi et j'y retourne. Oui, je viens de chez moi, j'y retourne. Il a quand même inventé plein de choses, ce bonhomme-là, avec un esprit qui vieillit pas tant que ça. La façon de parler vieillit un petit peu, malheureusement,
oui, oui,
parce qu'il avait quand même un langage assez soutenu. Mais
oui, il y a du vocabulaire. Hein.
Oui, voilà. Mais l'humour, le décalage, la déconne et tout ça, c'était quand même un grand farceur.
Alors, vous venez nous voir aussi avec Mémoire d'un gros mytho aux éditions Hugo de Singe. Je rigole parce que c'est vraiment hilarant, hein, je pèse mes mots. Hein. Un livre dans lequel vous imaginez être reçu par des célébrités. Donc, il y a Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Danny Boone. Mais à chaque fois, vous concluez que vous êtes mal reçu.
Ouais.
Et parce que c'est François Rollin, star interplanétaire, et qui accorde parfois une petite demi-heure, un petit quart d'heure par-ci par-là ces célébrités pour aller les voir. Et il y a un moment hilarant, mais avec Sophie Marceau, que vous allez voir à Corbeil-Essonne, elle vit dans une espèce de squat au 14e étage sans ascenseur. Et Sophie Marceau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle collectionne les ramasse-miettes.
Voilà, elle en a une collection immense. Alors moi, comme d'habitude, j'ai concédé à Sophie Marceau quelques minutes de mon temps, probablement parce qu'un de mes amis américains, De Niro ou Johnny Depp, m'a dit, écoute, vraiment, allez, sois gentil, elle veut te voir. Bon, alors d'accord, je vais y aller, j'y vais à reculons. Et puis, voilà, et au lieu de passer un moment agréable, elle m'impose de visiter son immense collection de ramasse-miettes. Et voilà, donc, en sortant, oui, elle est gentille, mais enfin, je suis déçu, j'attendais autre chose.
Elle vous montre sa table à biscottes parce qu'elle a une table spéciale pour mettre des biscottes écrasées
pour faire fonctionner les ramasse-miettes, parce qu'elle dit qu'un ramasse-miettes qui reste sans activité pendant longtemps, il se rouille un peu, tout ça.
Mémoire d'un gros mytho, ça s'appelle.
Dans tout ce livre, il n'y a pas un mot de vrai, et tous ceux qui sont nommés n'auront sûrement pas à le regretter. En fait, je vais vous dire, ce que pour moi, le plaisir aussi, c'était de rentrer dans l'univers de tous ces gens-là que j'admire, et Jean Dujardin,
Gad Elmaleh.
Gad Elmaleh, tous ces gens que j'adore, et rentrer dans leur univers, mais autrement que dans les interviews classiques qu'on entend où on dit ça. Donc là, carrément, le gros mytho, mais j'ai passé quand même un moment avec Catherine Deneuve, j'ai passé quand même un moment avec Fanny Ardant, sauf que, en vrai, non, mais bon. Et c'est ça qui fait que le bouquin est rigolo, c'est que les gens se reconnaissent, se retrouvent dans ces immenses stars, voilà, avec Alain Delon, c'est, ouais, même, c'est pas rien, Alain Delon, c'est un monument. Et ben,
vous êtes allé le voir et il vous a mal reçu.
Et voilà, il m'a mal reçu.
Quel est votre goût de la semaine, François Rollin ?
Mon goût
de la semaine, un restaurant, une table, un endroit qui a marqué votre semaine, une recette peut-être ?
Alors là, je suis encore sur la lancée des jours passés à Athènes, où parce que j'adore depuis très longtemps la cuisine grecque, et donc
on en parlait.
Vous en parlez, vous en parliez juste avant. Et puis, alors en ce moment, je vais un petit peu moins au restaurant parce que j'ai un petit bébé de 6 mois. Donc pour l'instant, la cuisine, ça va surtout être de faire des petites purées de légumes.
Ah, c'est bien.
À la noix de coco. Mais c'est très charmant aussi.
C'est génial. Alors Philippe Toinard a lu aussi votre livre « Mémoire d'un gros mytho ». Il s'est régalé. Et Philippe, vous voulez profiter de la présence de François Rollin pour lui suggérer d'ajouter un chapitre à « Mémoire d'un gros mytho ».
Ah oui, alors François, donc j'ai lu effectivement, c'est comme le disait Laurent, c'est hilarant. Alors vous êtes toujours effectivement mal reçu. Alors j'ai deux exemples. Moi que j'aime beaucoup, c'est Philippe Etchebest, le chef meilleur ouvrier de France, qui en guise de repas vous propose de partager une boîte de sardines. Bon, voilà, ça commence à être cette
parce qu'il ne sait pas cuisiner.
Il m'avoue qu'il ne sait pas cuisiner.
Et puis il y a Danny Boone qui lui vous invite à manger des frites, j'adore, molles et bourratives, mais arrivées spécialement d'Armentières par hélicoptère.
C'est difficile de faire pire. Alors avec qui François Rollin pourrait donner une appréciation qui serait « j'ai été très bien reçu » selon vous?
Alors selon moi, il serait deux à vous recevoir, François Rollin, deux copains qui sont vraiment deux copains comme cochons. Ils ont fait les 400 coups ensemble. Alors le premier s'appelle Jean Carmet. Alors il n'est plus de ce monde, mais comme dans votre livre, vous parlez de Jean Gabin, je me suis dit qu'on pouvait convier Jean Carmet car c'était un bon vivant et on ne meurt jamais vraiment quand on est un bon vivant. Et puis le second fait partie, on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Laurent, de chefs que vous adorez, chez qui vous avez fait des beaux repas, il s'appelle Jean Bardet. Et c'était ces deux-là qui étaient copains comme cochons, Jean Bardet et Jean Carmet. Alors il a eu 2 étoiles, Jean Bardet à Tours. Figurez-vous, et ça c'est la bonne nouvelle pour vous, si vous passez par Tours, il a un autre restaurant qui s'appelle À la table de Jean Bardet. Il a 82 ans, il continue à cuisiner tous les midis. C'est une table d'hôte d'exception, c'est dans sa maison.
Qu'est-ce qu'on y mange dans cette belle table alors ?
Alors qu'est-ce qu'on y mange et surtout qu'est-ce qu'on y boit ? Parce qu'il y a Jean Carmet dans l'histoire, faut pas oublier.
Et comment ?
Alors le solide, je vous donne la vérité, j'ai appelé Sophie Bardet qui est l'épouse de Jean pour le repas de jeudi dernier, donc avant-hier. Il y avait, tenez-vous bien parce qu'il fait chaud, cuisse de grenouille, foie gras, saumon fumé maison, gazpacho de tomate, homard grillé, riz de veau au morille et mousse au chocolat. Ça c'était le menu. Et
je pense que c'est bien pour la canicule.
C'est ça. Et je pense que j'ai oublié des plats parce que Sophie parlait trop vite. Et pour le liquide, eh ben évidemment des vins de Bourgueil puisque Jean Carmet était originaire de ce village et c'était un formidable porte-drapeau et ça vous changera surtout, François, de l'eau tiède que toutes vos stars vous offrent à la fin de
chaque... Je crois que Sophie Davant, notamment, me refuse une bouteille d'eau. Si elle me donne de l'eau minérale, mais pétillante. Moi, je la veux plate. Voilà.
Et vous qui êtes un homme généreux, Philippe Toinard, vous offrez un beau livre à Monsieur Rollin.
Oui, alors je voulais terminer, François, puisque vous êtes un homme de lettres et un homme qui manie les mots. Jean Carmel était aussi à l'écran. Et Jean Bardet aussi, puisque dans sa cuisine, il savait parler avec les mots. J'ai retrouvé dans ma bibliothèque cet ouvrage que je vous offre, qui est de 2008, qui est paru aux éditions Glénat, qui est écrit par Jean Bardet, ça s'appelle « Fin de mots, fin F-A-I-M ». Vous y retrouvez toutes les recettes que vous avez adorées chez Jean, qui ont fait sa réputation, et des très belles citations, je vous en donne deux. « Le goût est l'une des rares choses qui n'est ni à vendre, ni à acheter ». Et la deuxième, c'est « La cuisine n'existe pas sans le partage, à commencer par celui des mots, et si je vous l'offre, c'est parce que je me dis qu'en sortant, peut-être que vous allez dire que vous avez été plutôt bien reçu à Europe 1. »
En plus, Jean Bardet, c'est un souvenir immense. D'abord, j'ai fait le premier Jean Bardet à Châteauroux, il était encore dans son petit restaurant à Châteauroux, où on avait bu un chinon avec un copain, et je m'en souviens encore. Et ensuite, à Tours, j'ai un souvenir d'une salade aux herbes. Il mettait toutes les herbes de son potager qui était juste à côté.
Bien sûr, oui.
Et c'est là, et je le refais souvent et j'y repense. C'est-à-dire, c'est une salade dans laquelle, tout simplement, on met et de la ciboulette, et de l'estragon, et de la coriandre, et du persil. Et ça fait une
belle salade d'herbes. C'est vrai qu'il a inventé la salade d'herbes. Absolument.
Ouais, c'est vraiment fabuleux.
Vous avez déjà mangé du Pierre Nègrevergne ?
Non.
Grand chef parisien, il sera là pour vous dans un instant. On a une surprise et pour vous aussi, chers auditeurs, un plat que vous pourrez refaire ce week-end. On revient juste après les titres d'Europe Midi.
des cerises qui sont excellentes. Vaut peut-être mieux en manger un petit peu moins et du bon. Et puis des abricots, quoi. Je vais vous en offrir un, comme ça vous allez le goûter.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Ah oui, et puis les fruits d'ici.
Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous, un bonne cuisine si vous êtes en train de la faire. François Rollin est notre invité, il est venu nous voir avec son excellent livre et hilarant, Mémoire d'un gros mytho chez Hugo Dessinges. Il est en tournée aussi en ce moment, il sera ce soir avec son spectacle en roue libre à 20h30 au Centre culturel de la Maison du Savoir, s'il vous plaît, à Saint-Laurent-de-Nest dans les Hautes-Pyrénées. Et il est venu en direct avec nous ce matin, merci. Vous y allez comme en train, avion ?
Avion. Le train est trop long, donc...
C'est ça, bah c'est très très sympathique de votre part d'être venu faire une petite escale à la table des bons vivants, monsieur Rollin.
Oui, puis après, c'est ça, l'avion, c'est parce que je veux aller chercher la température maximale d'aujourd'hui. Elle est à Toulouse, on va s'amuser.
C'est ça, exactement. Alors, dans ce livre, Mémoire d'un gros mytho, vous revenez sur toutes vos rencontres avec d'immenses stars. Hein, on le disait, Sophie Marceau, Catherine Deneuve, Jean Dujardin, Omar Sy, Vanessa Paradis. Le point commun de ces personnalités, bah, c'est qu'elles ont toutes fait des pieds et des mains pour vous rencontrer. Et elles vous reçoivent mal. Hein. Gad Elmaleh qui vous fait attendre des heures. Hein.
Voilà, Gad Elmaleh.
Malotru.
Un autre malotru, c'est Christian Clavier, dans sa résidence secondaire, son palais en Lituanie, et qui m'offre un repas avec des tonnes de caviar. Mais à un moment donné, je lui demande une petite serviette. Mais comme il est très occupé à me raconter l'histoire de la Lituanie, qu'il connaît sur le bout des doigts, il n'entend pas bien. Et moi, en sortant de là,
ça vous contrarie.
Le caviar est mal passé, parce que je voulais une petite serviette et je ne l'ai pas eu.
Et Catherine Deneuve, c'est hilarant, pareil, Catherine Deneuve qui vous reçoit, qui a un hamster. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous fait à manger, Catherine Deneuve ?
Alors, des pots de courgettes, parce qu'elle ne veut pas faire manger les pots des courgettes à ses hamsters. Elle donne la courgette à ses hamsters et moi, des pots de courgettes.
Saupoudré de paprika périmé.
Lisez ce livre, Mémoire d'un gros mytho. Je vous jure que c'est rare de rire autant en lisant un bouquin. Vous savez, moi, ça m'a fait penser à Encore des nouilles quand des proches faisaient ces chroniques pour Cuisine et Vins de France. Oui. Eh ben, on est dans la même famille. Qui sont vos maîtres, tiens, dans le temple de l'humour, François Rollin ?
Oh ben, sûrement mon plus grand maître et ami, c'est Pierre Desproges. Après, l'autre, c'est Roland Topor. Pardon, hein, c'est des morts, mais... Alors, Roland Topor ne faisait pas sur scène, mais Roland Topor était un auteur d'une drôlerie absolument fabuleuse. Et puis, mon grand frère aussi, Darry Cole. C'était,
c'est vrai.
Et qui est un inspirateur, parce que Darry Cole est un des premiers à avoir fait ce comique absurde, c'est-à-dire ce comique avec du rien. Et avec rien du tout, il jetait un foulard, vous voyez, c'est pas drôle.
Avec une bafouille.
Oui, voilà, avec trois fois rien, juste un tempérament comique et tout ça. Puis en plus, ces trois mecs-là étaient des crèmes, des gens d'une gentillesse, d'un humanisme et tout ça, d'une profondeur. J'ai les larmes aux yeux chaque fois que je pense à eux.
Quel regard vous portez sur la génération des humoristes actuels ? Parce que vous aviez annoncé il y a quelques années que vous arrêtiez la scène, carrément.
Oui, c'est vrai. Là, la roue libre, c'est vraiment quelque chose que je fais de temps en temps quand des gens me veulent très fort et je leur dis, ben non, j'ai arrêté le spectacle. Et là, pour le coup, c'est vrai, c'est pas mytho. Ils me veulent très fort et je viens faire cette roue libre, c'est-à-dire une heure et demie d'improvisation totale. Donc ça, c'est une espèce de performance un peu folle, mais alors les jeunes d'aujourd'hui, ben vraiment ça me va très bien. C'est il y a plein de choses qui sont bien et je suis sûr que non, c'était pas mieux avant. Oui, il y aura encore des Coluche, des Proches, Raymond Devos, tout ça. Oui, tout ça, ça va venir. Le seul petit problème qu'on a aujourd'hui, c'est que avec les comédie clubs de Jamel et tout ça, il y en a énormément qui se sont engouffrés dans la brèche et maintenant ils sont un peu victimes du succès du truc, donc ils sont un petit peu trop nombreux.
C'est comme dans la nourriture, vous le dites, hein, y a un côté industriel versus l'artisanat, quoi.
Oui, voilà. Alors, mais ils n'y sont pour rien, c'est-à-dire individuellement, celui qui se lance, lui, il ne se lance pas dans l'industrie, il se lance dans l'artisanat, lui, tout seul. Mais il se retrouve dans un mouvement où la télé, tous les jours, veut un humoriste, mettre un petit humoriste ici, un autre ici, la radio en veut un peu partout. Alors tout le monde tente sa chance, et ça fait qu'on ne peut pas très bien construire une carrière ou construire une œuvre, enfin moins bien. Et donc ça va être plus long pour sortir du lot à ceux qui ont vraiment le plus grand talent.
Et vous êtes une référence pour de nombreux humoristes de la nouvelle génération, ouais, qui parlent de vous avec des trémolos dans la voix, vous le savez, les Arnaud de sa mère, tous ces humoristes qui se réclament de vous, hein, François Rollin.
Oui, bah c'est très agréable, parce que moi je les aime, et puis moi je les aime bien aussi, hein, je suis très client de ce qu'ils font, ou Olivier de Benoît, Florent Père, là, toute cette génération... là. Et puis maintenant, il y en a encore des plus jeunes. Et j'ai très confiance, en tout cas, c'est-à-dire que l'esprit comique, il n'a aucune raison de disparaître. Alors pour l'instant, c'est un peu brouillon, mais il est là. C'est les mêmes hommes et les mêmes femmes qui vivent dans à peu près la même vie. Donc bien sûr que c'est pas quelque chose qui risque de disparaître. Et je veux pas qu'on dise « Ah oui, ben voilà, Coluche nous manque tellement, on retrouvera... » Si, si, on retrouve.
Il y en aura d'autres.
Ben, oui.
C'est l'heure du plat du jour. Je vous présente Pierre Négrevergne, qui est venu en voisin. Bonjour Pierre Négrevergne. Le chef de l'excellent restaurant de l'auberge Pyrénées-Cévennes à Paris, derrière la place de la République. C'est un endroit, je le dis, dans lequel il faut aller, surtout en ce moment, parce que c'est climatisé en plus.
Oui, hein. Oui. On a une petite terrasse quand même.
Bon, une petite un peu terrasse chaud, aussi.
Mais c'est vrai que c'est climatisé, et puis le cadre est juste magique.
Et le vin est frais.
Et le vin est frais, oui, derrière la place de la République. Et vous êtes venu faire un petit clin d'œil à François Rollin. On a enquêté et qui a deux passions, la viande de bœuf et la salade de tomates.
Hein, c'est vrai, ça.
Hein,
ah ben vrai. Alors là, je vais laisser Pierre parler, mais une de mes idoles aussi, c'est Christian Etienne à Avignon.
Bien sûr.
Christian Etienne faisait un menu tout tomate de l'entrée au dessert. Et une cuisine, là aussi, vraiment un artisan magnifique, franc du collier, pas chichiteux.
Avec une belle moustache.
Ouais.
Et on est dans la saison de la tomate, donc on peut y aller. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour Monsieur Rollin, Pierre Négrevergne?
Eh bien, j'ai fait tout simplement une salade de tomates avec une petite vinaigrette citron orange avec une petite moutarde au miel.
Ah oui.
Et puis un filet de bœuf rôti, donc servi froid, avec une sauce tartare.
Ah, il est beau ce rôti de bœuf. Hein.
Oui. Voilà.
Et donc, quel morceau?
Il devrait être tendre. Ben là, on est dans le filet là.
Ah oui, alors là.
Mais après, on peut choisir le cœur de rhum steak. Après, il faut aller plutôt dans la direction de son boucher qui va plutôt vous orienter, est-ce que ça peut être une pointe de tranche, des choses comme ça.
Et c'est vrai qu'on aime les viandes froides en ce moment.
Ah ben en ce moment, oui.
Combien de temps de cuisson pour ce rôti de bœuf, là?
Moi, je mets 9 minutes. En fait, je le saisis. Donc, saisis des quatre côtés, on va dire, huile et beurre. Et après, je mets 9 minutes à la livre.
Ouais, moi, j'ai une petite question pardon, sur l'assaisonnement. Je ne sais jamais, sur une pièce de viande qu'on met au four, est-ce qu'on sale et qu'on poivre au début du four ou à la sortie du four?
Ça, c'est le sujet.
Il y a deux écoles, mais ouais. Pierre, vous allez trancher, s'il vous plaît.
Alors, moi, pour ma part, j'assaisonne.
Avant?
Ouais, avant. Okay. Ouais. J'assaisonne avant, je saisis. Enfin, on m'a appris comme ça. Donc, j'assaisonne avant, je saisis huile, beurre pour faire pour la réaction de Maillard. Mmh. Et ça, c'est vraiment important puisque beaucoup de personnes vont mettre le rôti directement dans le four. Donc, c'est un four chaud, 190 degrés, et puis on saisit à la poêle ou à la cocotte en fonte, comme on veut, et on fait bien marquer la viande pour faire la réaction de Maillard. Et après, cuisson 9 minutes à la livre, et moi je fais moitié, donc c'est-à-dire que 4-5 minutes, je la retourne, oui, un peu comme la côte de bœuf sur le barbecue.
C'est ça.
Donc je la retourne, je relaisse les 9 minutes à la livre. Et après, du repos.
Et
c'est hyper important.
C'est important, oui, que le jus se répande à l'intérieur. Vous régalez, Ophélie Neyman?
Je ne peux pas parler, pardon.
C'est bon, ça, cette sauce que vous avez faite avec. C'est la sauce tartare.
Sauce tartare, hein, ouais. Donc, une base mayonnaise. Et puis après, moi, je mets beaucoup d'herbes. Donc, il y a de l'estragon, il y a de la ciboulette, du persil, du cerfeuil. Un petit trait de vinaigre pour... Cornichon, capre, bien sûr.
C'est ça,
et puis une mayonnaise, moi je fais toujours une mayonnaise très moutardée, parce que je fais mes œufs mayo.
Mais avec du jaune d'œuf dur pour la tartare, ou c'est un jaune d'œuf cru, vous?
Non, moi je fais base mayo. C'est vrai qu'on peut rajouter du jaune dur haché.
Alors, voilà. C'est ça qu'on aime dans votre restaurant, l'Auberge Pyrénées-Cévennes, rue de la Folie-Méricourt, à Paris, dans le 11e arrondissement. C'est qu'on rentre, déjà, le décor n'a pas bougé depuis quelle année?
Au moins 60 ans, je pense.
Au moins, c'est ça, avec les vraies belles nappes à carreaux, on est bien reçu, avec un vrai aubergiste que vous êtes.
C'est ça, à l'ancienne.
Qu'est-ce qu'on peut déguster en ce moment à la carte, autre que de belles choses comme ce rôti de bœuf et une belle viande froide?
On a toujours le traditionnel cassoulet, la blanquette, et on en vend, malgré la chaleur, on en vend autant. Et puis, à côté de ça, un petit risotto plus léger avec des petits pois, des fèves et des asperges vertes. C'est la fin de saison, mais on en a encore un petit peu.
Et oui, il est malin. Voilà. Il nous fait manger des plans sauce parce qu'il climatise, vous comprenez? c'est bien vu.
Non, il y en a pour tous les goûts, vraiment.
L'Auberge Pyrénées-Cévennes, merci d'être venu à cette table,
merci
Pierre Négrevergne. Ça vous plaît, François Rollin?
Ah oui, c'est formidable. Et alors, ça me rappelle aussi un autre grand chef parce que là, j'ai cette viande qui n'est pas crue, mais cuite vraiment bien saignante. Et puis cette sauce tartare, et c'est comme ça que Rebuchon fait son tartare. On fait d'abord la sauce tartare en entier, et ensuite on le mélange avec la viande qu'on a assaisonnée à côté. son grand maître. Oui. J'imagine que la référence ne vous vexe pas.
J'en suis ravi, merci.
Merci Pierre Négrevert.
Merci, merci.
Ne bougez pas, on vient avec Duvin et Ophélie Neyman et les deux minutes du vin juste après ça.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bon samedi midi à table avec nous, bonne cuisine hein, si vous êtes en train de la faire. François Rollin est à notre table ce midi, il est venu nous voir avec Mémoire d'un gros mytho, un livre hilarant, hein. Vous a fait des extraits tout à l'heure chez Hugo de Singe. Et puis vous serez aussi au Festival de la Correspondance, hein, je le disais juste pendant la pause, Festival de la Correspondance de Grignan du 5 au 9 juillet avec Albert Algout sur scène et puis avec Pierre Palmade, on le disait, vous allez faire la belle correspondance de Pierre Dac. Hein.
Oui, oui, c'est un vrai plaisir à la fois de retrouver Pierre et de retrouver les deux Pierres. Le vieux Pierre disparu, mais qui est un monument dans notre métier. Et puis le petit Pierrot Palmade, qui a toujours 20 ans pour moi, là je l'ai connu.
Vous l'avez connu à l'époque de la classe, quand il est arrivé
oui, oui, voilà,
à Paris.
Oui, vraiment quand il est arrivé de Bordeaux avec ses cheveux droits sur la tête et quand il à l'époque où il parle beaucoup trop vite,
c'est vrai.
On sentait quelquefois du spectacle et puis on avait dit bon nous on a fait comme qu'on l'a pas bien vu parce que ça parlait trop vite et tout ça. Maintenant il s'est assagi puis on est amis depuis cette j'ai écrit pour lui beaucoup donc on est c'est un vrai copain.
Vous aimez écrire pour les autres?
J'adore ça. J'adore écrire pour les autres. Je l'ai fait beaucoup. J'écris aussi bien pour Bigard que pour Latsou, que pour Guy Carlier, que pour plein de gens. Et c'est très agréable parce que c'est eux qui vont au charbon.
C'est ça.
Parce que monter sur scène, c'est le plus dur dans notre métier. Hein, c'est à cette heure-là, puis pas plus tôt, pas plus tard. Et puis, machin. Et puis si t'as la fièvre ou mal aux pieds, on s'en fiche. Hein, alors, on écrit. Puis après, c'est au bon Jean-Jacques Vanier qui fait le tour des théâtres de France.
Maître de l'absurde aussi,
Jean-Louis. Oui, Gagné. Oui, voilà, comme vous. J'ai beaucoup écrit pour lui, et c'est vrai que, écrire, c'est bien agréable, ça se fait à la maison. Et écrire, en plus, c'est le plaisir de la création, comme de toute création. Et donc là, je ne quitte pas beaucoup la cuisine. C'est un vrai plaisir, une chose qui vous met en bonne santé, de créer quelque chose, n'importe quoi. Un petit poème, très bien. Un petit coin de musique, très bien. Un petit plat, un petit machin. Créer quelque chose.
Écrire.
Ça donne un sens à écrire un petit quelque chose.
Des mots et des mets. Alors, vous le disiez, vous êtes un artisan, vous êtes autodidacte. Vous avez fait une grande école, je ne le savais pas, ça, de commerce, l'ESSEC et ensuite du journalisme. Et un de vos premiers postes, c'était au Monde, la même où Ophélie Neyman travaille aujourd'hui. Et vous avez été correspondant de l'Ouest parisien pendant 10 ans au Monde. Hein.
Absolument, oui, avec Jacques-François Simon, qui était un grand monsieur. Puis j'avais contact avec des noms qui vont dire quelque chose... Raymond Barillon, service politique et tout ça, c'était la très très grande époque là aussi. Hein, c'était.
Vous dites, on vous pardonnait pas de faire une erreur sur le nombre d'adhérents de l'association des espaces verts de Châtenay-Malabry.
Ah oui, hein, non, bien sûr.
De
oui.
La précision.
La précision, non, c'est vraiment, ça a été une expérience de 10 ans très agréable parce que, effectivement, la rigueur, c'est l'école de la rigueur. Toute information doit être recoupée. L'âge de Laurent Mariotte, s'il veut le savoir, je ne me contente pas de regarder Wikipédia. Je me renseigne et tout ça. Et puis, la curiosité aussi. C'est-à-dire que tout d'un coup, le journal vous envoie sur des trucs. Vous ne saviez même pas que ça existait à l'inauguration d'un truc. Vous apprenez la vie, vous découvrez le monde.
Eh bien, Miss Glouglou du journal Le Monde nous apprend le monde du côté du vin, justement. Et aujourd'hui, Ophélie, il fait chaud, il faut s'hydrater. Hein, avec modération et avec plaisir. Et pour François Rollin, vous êtes passé au bib.
Oui.
Petit rappel, on en a déjà parlé ici. Le bib, c'est quoi? Redites-nous.
Alors, il y a deux sortes de bib. Il y a le bib que mon petit garçon a bu ce matin, un objet oblong.
Il est là,
une tétine souple, il est là en régie, rempli de lait, parfois chocolaté. Oui. Mais le bib, évidemment, que je vous ai ramené et cubique, rempli de vin, exclusivement destiné aux grandes personnes. BIB, c'est donc l'acronyme de Bag in Box, en français, le sac dans la boîte. Alors c'est l'héritier du cubi, parce qu'il peut contenir plusieurs litres de vin, mais la grosse différence, c'est qu'une fois ouvert, le vin ne s'abîme pas.
Parce que c'est une poche sous vide, sans retour d'air, donc le vin est protégé et il ne va pas s'oxyder en fait.
Jusqu'à 6 semaines après ouverture, donc ça laisse le temps vraiment de le vider. C'est un gros avantage par rapport à la bouteille, mais un autre, c'est que c'est économique, beaucoup plus. En moyenne, ça coûte 25% de moins cher à l'achat, avec le même vin dedans évidemment. Comme le prix du verre a explosé à cause de la guerre en Ukraine, il a monté de 40%, ça va se répercuter sur les bouteilles de vin, donc le bib va devenir encore plus intéressant pour le porte-monnaie.
Mais oui, puis Ophélie, les Français ne s'y trompent pas, ils achètent de plus en plus leur vin en bib. Hein.
Oui, 44% des volumes de vin vendus en supermarché en France étaient en bib, et maintenant, en 2022, Ben c'est la moitié. Donc les ventes ont explosé depuis le confinement. Mais là où, j'interviens quand même, c'est que les bibles, c'est pas seulement dans les supermarchés, on en trouve des super bons chez les cavistes.
Oui, parce qu'il faut le redire, si on met du bon vin dans un bib, on aura du bon vin à l'arrivée dans le verre.
Hein. C'est ça,
Pierre Négoverne, vous qui êtes resté avec nous.
Et bien sûr, je suis
en tant que restaurateur, oui, vous avez du bib, vous, tant que restaurateur?
Absolument. Ouais, ouais. Ah. Ouais. Mais je partage.
Petite sélection, tiens.
Et je crois que c'est une bonne idée, effectivement, d'aller aussi chez les cavistes, parce que dans les supermarchés, il y a des bibes qui sont pas mal, et puis il y a des bibes qui sont vraiment pas bien du tout.
Oui, oui, il n'y a pas que la villageoise, hein, il y a de belles choses.
Alors, je voulais vous faire deux sélections, vous proposer deux sites internet qui sont spécialisés dans le bib. D'abord, Bibovino, sélection caviste géniale, avec des appellations de ouf.
C'est mon copain de l'Essac, Franz Rush, qui a Bibovino.
Ah bah voilà, et on trouve du Croz Hermitage, du Condrieu, du Beaune Premier Cru. C'est vraiment un plan impeccable pour les anniversaires, les baptêmes, les fêtes où on veut de la qualité et de la quantité. L'autre dont je voulais vous parler, et je vous ai ramené trois choses. Les Tites Bibes, c'est un site qui ne vend que du vin bio ou nature. C'est super pointu pour ceux qui adorent ça, en gros contenant. Je vous ai ramené un pétillant italien. On ne peut pas dire Prosecco, parce que Prosecco, c'est dans des bouteilles. Mais c'est ça, en fait.
Ah oui?
Oui, c'est du Prosecco. Fût, comme un fût à bière sous pression. C'est pas vraiment un bib. Mais alors, les deux autres, regardez, j'ai un blanc de macération, presque vin orange.
Je le bois, là. Oui.
Du domaine de la Montgestine en Provence.
Délicieux.
Et l'autre, c'est un vin sans soufre ajouté de chez Catherine Bernard dans le Languedoc. On est à quoi, là? Juste pour dire.
Oui, les prix?
Entre 7 et 11 euros l'équivalent bouteille, dont 30, 45 euros le cubit de 3 litres. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus?
Mais sortons les cubis.
Allez,
tous au bib.
Hydratons-nous.
On vous mettra les références sur Europe 1. Bien entendu. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, François Rollin. Quel est le goût de votre enfance, François?
C'est les pommes de terre au lard que faisait mon papa avec la cocotte minute. Je ne sais pas si c'est homologué.
Si, elle revient en force. Voilà. Elle revient en force.
Et il faisait des pommes de terre toutes simples, bien choisies et quelquefois sorties de son potager. Et au lard, tout simple. Voilà, le truc le plus simple, et c'est ma Madeleine de Proust.
Votre plus beau repas?
Alors, mon plus beau repas, bah, ils sont nombreux, parce que, est-ce que c'est chez Pierre Gagnère, est-ce que c'est chez Alain Chapelle?
J'ai eu la chance d'aller chez Alain Chapelle.
En fait, depuis que j'ai 20 ans, ma passion, c'est de faire des économies pour aller faire un grand repas. Alors, une fois qu'on y est, on oublie l'addition, puisqu'on est venu pour ça. Et ça fait des événements, et donc tous les noms que je vous cite, Marc Menot, Guy Savoy, Georges Blanc, Jean-Michel Lorrain, Solange Gardillou, j'oublie le nom Lion d'Or à Romorantin, tout ça c'est des événements, c'est pour moi, c'est moins que la naissance de mes enfants, mais je veux dire, c'est des jours où je me rappelle tout le cadre, ce qu'on a mangé, c'est des jours qui ont de la couleur, qui ont de l'odeur, c'est magnifique, ça rythme ma vie.
Votre pire repas?
Alors, c'est mon pire repas, il est très drôle, mais il n'est pas en France, parce que je ne veux pas dénoncer personne. C'est en Sardaigne, avec ma compagne, on est allé au sud de la Sardaigne, et on a trouvé à Porto Pino un restaurant qui avait l'air à peu près... Et tout était dégueulasse, c'en était drôle, mais c'était vraiment drôle.
Il y a une constance, au moins.
Mais c'était vraiment drôle, parce que j'avais envie de leur dire, le plus simple, ne touchez pas aux produits, mettez les produits juste comme ça.
On se débrouillera. Ne les cuisinez pas. Et le mot de la fin, F-I-M, François Rollin?
Vite.
Ah.
Ah oui, je fais un peu vieux jeu là aussi, c'est-à-dire quand j'ai faim, quand non, je peux ne pas manger pendant 8 heures, mais si vous m'avez dit, ça y est, on y va, faut pas que la prise de commande, plus le machin, fasse qu'il y a encore une heure et demie, je peux pas.
Eh ben, on était ravis de vous avoir à la table des bons vivants. Merci d'être venu, François Rollin.
Ah, merci à vous, vous êtes trop les meilleurs.
Mémoire, vous êtes gentil. Mémoire d'un gros mytho chez Hugo de Singe. Et puis ce soir, en roue libre, votre spectacle à 20h30 à Saint-Laurent-de-Nest dans les Hautes-Pyrénées. Merci Pierre Négrevergne.
Merci.
Auberge Pyrénées-Cévennes à Paris, rue de la Folie Méricourt. Salut Ophélie Neyman.
Au revoir.
À bientôt dans le monde. Merci Philippe Toinard.
Salut Laurent.
Et à bientôt à cette table. Vous avez votre ronde serviette désormais. On vous retrouve dans le magazine 180 degrés. Merci à ma belle et fine équipe. Sous la houlette de Lucie Lescourou à la rédaction en chef. Et merci à Julien Blanc à la réalisation. On se retrouve demain à la table du dimanche. Et je serai avec Isabelle Carré et Thomas VDB. Et il y aura de la courgette avec Manon Fleury. Voilà, vous savez presque tout dans un instant. C'est Europe Midi avec Thierry Dagiral sur Europe 1. Bon week-end les amis, hydratez-vous. Hein. Il fait très chaud, hydratez-vous.
Avec des bibes.